écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3.
Fondation Abbé Pierre, ne lâchons rien.
Eh bien, bonsoir, chères auditrices, auditeurs. Bienvenue sur Eau de Radio 91.3. Nous voici déjà au deuxième numéro sur ces questions liées au logement avec la Fondation Abbé Pierre Aquitaine, en présence de ceux qui vont nous accompagner toute cette année, Pascal Paoli, qui est délégué régional de la Fondation, Michel Blanchard, président du comité régional des bénévoles de la Fondation, et aujourd'hui nous avons la chance, j'ai aussi le bonheur, aussi, nous sommes ravis de vous accueillir, trois femmes, parce que avant nous étions trois garçons, mais bon, là c'est, on est donc plein, parfaite parité. Aude Boyer, qui s'occupe du pôle logement à la Fondation Emmaüs 33. Estélia Arez, avocate à Bordeaux, présidente du syndicat des avocats de France à Bordeaux, qui est collaboratrice d'Emmaüs 33. Et Océane Nicolo, juriste à Emmaüs 33. Bienvenue à toutes les trois. Et nous sommes ravis d'être six en pleine parité. J'espère qu'on le saura, Pascal et Michel et moi-même à l'avenir. On va démarrer très vite. Pascal, sur l'actualité nationale, le 3 février dernier, c'était le 20e rapport, et une 20e fois, bien sûr, sur des constats, on a des chiffres vertigineux qui nous questionnent, des millions de personnes en France qui sont touchées de près ou de loin par la crise du logement, 3,5 millions qui sont soit mal logés, soit hébergés chez des tierces, etc. Je voudrais revenir un peu sur les grandes lignes, sur ce constat de ce 20e rapport, Pascal Paoli.
Oui, 20e rapport, donc pas d'amélioration sur le front du mal logement, malheureusement. Tu as donné les chiffres principaux, j'en rajouterai quelques-uns, notamment ce qui concerne le sans-abrisme. Sur la dernière période de 10 ans, plus 50% de sans-abri, et parmi ces sans-abri, une donnée qui fait froid dans le dos, une statistique, comme on dit aujourd'hui, ce sont ces 30 000 enfants qui vivent à la rue, au 21e siècle, dans la 6e puissance mondiale. Je rappelle d'autres chiffres, mais qui ne sont pas ceux du mal logement. J'ai dit quand même que ce 20e rapport a réuni, porte de Versailles à Paris, 2000 personnes, que la ministre s'est déplacée elle-même en personne, et que la table ronde de l'après-midi réunissait quatre anciens ministres, qui ont confronté à la fois la politique qu'ils avaient conduite en leur temps et les propositions que nous avions fait nous-mêmes en notre temps autour du contrat social pour une nouvelle politique du logement. Et on espère toujours d'année en année que les élus, les décideurs et le pouvoir national se saisira de ces propositions.
Cette crise, ce mal logement, ça touche qui exactement quand on pense, si on pense à la typologie de la population, c'est des jeunes, c'est des personnes âgées, c'est des personnes isolées.
On est aux deux bouts de la pyramide des âges. Ceux qui sont les premières victimes du mal logement, ce sont les jeunes, les jeunes sans ressources, en tout début de parcours de vie et d'insertion professionnelle et sociale, et qui, à cause de cette incapacité liée à leur statut d'accéder au logement, eh bien, mettent très probablement et très rapidement en échec une vie ordinaire. À l'autre bout de cette pyramide des âges, on retrouve effectivement une population de personnes vieillissantes. On se félicite de l'allongement de la durée de la vie et des progrès de la médecine. On se félicite moins du manque de moyens pour ces personnes âgées de se maintenir au logement. Ils sont assignés à résidence, ils vivent dans de très mauvaises conditions. Et puis au milieu de tout ça, un corps qui n'est pas en évolution mais qui grossit dans les conditions de vie ordinaires, qui sont ces fameux classes moyennes, ces fameux Français moyens qui pensaient avoir un peu atteint l'Eldorado en se maintenant dans le logement, en arrivant à survivre avec des ressources qui étaient à peu près cohérentes. Et depuis 2008, et ce phénomène de cette crise qui a été un peu un booster, un accélérateur, eh bien on voit que les gens sont expulsés de leur logement parce qu'ils ne peuvent plus le financer. Leurs conditions de ressources économiques, leurs moyens financiers ne leur permettent plus, y compris dans le parc social qui est totalement engorgé, d'accéder au logement.
Ces données sont un peu étonnantes. Quand on réfléchit, on pense à la question de l'emploi, mais c'est à peu près les mêmes chiffres, par analogie, qui sortent. C'est-à-dire c'est les jeunes qui sont touchés le plus et les seniors.
Oui, on a une vraie corrélation et un vrai lien qu'on a démontré depuis au moins deux rapports entre le logement et l'emploi. Cette imbrication, cette espèce de dépendance l'un à l'autre. Pour se loger, il faut forcément des moyens de financer son logement, et ces moyens, ils proviennent majoritairement du travail. Et quand on veut trouver du travail, accéder à un parcours professionnel, à l'identique du parcours résidentiel, eh ben, il vaut mieux avoir un pied à terre pour pouvoir être dans les bonnes conditions qui permettent de se présenter chez un employeur ou d'aller tous les matins au boulot.
Sur la région, quel constat vous faites ?
Un constat qui est comparable au constat national, avec des marqueurs un peu plus précis sur les jeunes notamment, avec une très très grosse difficulté pour les jeunes d'accéder au logement, et notamment parce que le parc social ne les accueille pas, ou en tous les cas insuffisamment, mais c'est pas un reproche à lui faire, puisque de toute façon il n'accueille pas à l'échelle de la Gironde 50 000 demandeurs dans la file active qui sont éligibles pour accéder à ce logement social, puisque je rappelle que ce sont des conditions de ressources qui fondent vos critères d'éligibilité au logement social. Et puis on trouve un autre marqueur un peu plus prégnant à l'échelle de la Gironde et même de l'Aquitaine, c'est la progression continue depuis au moins 3 ans de la présence de familles monoparentales, ces jeunes mamans, le plus majoritairement, qui ont un enfant, quelquefois deux, et qui sont pas solvables, sont pas même, j'ai envie de dire, crédibles vis-à-vis d'un propriétaire privé, ne peuvent pas recueillir l'ensemble des garanties qui sont toujours exigées. On s'est battu longuement pour que la loi Allure porte dans ses attendus la garantie universelle des loyers, ce qui permettrait au commun des mortels de pouvoir accéder au logement sans avoir besoin de recourir à la solidarité familiale, à ce fameux garant physique, et à tout cet argent qu'il faut avoir dépensé ou qu'il faut montrer avant même d'avoir mis le premier pied dans son logement.
Rappeler un chiffre par rapport aux familles monoparentales à juste titre, ça représente, le coût du logement représente pas loin de 50% des revenus.
Oui, plus vous êtes pauvre, plus ce premier poste de dépense, mais ça c'est pas lié aux ressources, ça reste toujours le premier poste de dépense, mais particulièrement ce taux d'effort chez les ménages modestes qui dépassent très souvent les 45 pour atteindre jusqu'à 50% des ressources. Et quand on a dépensé 50% de son budget uniquement pour se loger, je parle même pas de se chauffer, de s'éclairer et de consommer l'eau potable, qu'est-ce qui reste pour vivre ?
Et face à cette situation, et depuis toujours, je dirais même depuis 1954, l'appel d'Abbé Pierre, vous sensibilisez, vous essayez d'alerter. Et dernièrement, sur la région, à Biarritz, vous avez organisé une nuit solidaire. En quoi consiste cette nuit ? Quels étaient les objectifs de...
Les objectifs, ils étaient de décliner cette initiative à niveau national, qui était de faire se rencontrer des mondes qui ne se parlent pas. Notre initiative locale à Biarritz, c'était tout simplement de mettre autour de la table, dans un cadre totalement apaisé, des gens qui vivent à la rue ou qui sont dans de l'hébergement temporaire et qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles, face à ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de s'engager dans la vie publique, dans la vie politique, on l'espère toujours pour défendre l'intérêt général et pour qu'ils entendent de vive voix l'expression de ces personnes laissées au bord du monde. Et que peut-être on crée un peu plus d'engouement sur ces questions, un peu plus de préoccupations pour trouver des solutions, parce que la Fondation propose des solutions et qu'on imagine mal qu'elle ne soit pas entendue et qu'elle soit mise à l'œuvre un jour.
Vous me disiez, en discutant de la préparation de cette nuit solidaire, que vous avez rencontrer des partenaires, des associations qui avaient des réticences en disant bon, les sans-abri, les gens qui sont dans la rue et connaissent déjà cette réalité, peut-être bon, ça leur dit rien de rencontrer les décideurs.
C'est toujours très difficile d'exprimer son mal-être et de le faire, j'allais dire, publiquement. Et en plus, les personnes à la rue vivent ça d'autant plus douloureusement que chaque fois qu'elles rencontrent ou une main tendue ou des services publics d'aide sociale, d'action sociale, on leur fait à nouveau répéter la douleur qui est le récit de leur parcours de vie. Donc oui, les associations étaient réticentes. Surtout quand il s'agit d'élus qui ont une représentation sociale du point de vue de ces populations qui est plutôt négative.
Mais la discussion a eu lieu.
La discussion a eu lieu dans un cadre et dans une expression totalement apaisée. Et j'espère, nous espérons, nous, notre équipe de bénévoles locaux et régionaux, qu'on a pu en quelque sorte libérer cette parole et qu'elle a touché, sur le plan purement de l'humanité, ceux qui ont le pouvoir.
Vous avez eu un retour des témoignages des dissidents?
On a eu un retour, mais les retours à chaud, ils n'ont pas la même valeur que quand on s'est posé 5 minutes et qu'on a fait un constat un peu plus refroidi. Mais en tous les cas, les élus ont joué le jeu, ils ont répondu présent dans leur totalité. Les personnes accueillies, elles, évidemment, elles ont eu cette occasion-là. Et pour le dire un peu trivialement, tout le monde s'est quitté bons amis, mais en se donnant rendez-vous pour mettre en œuvre quelque chose de véritablement collectif. Et c'est notre vocation, nous, Agence régionale de la Fondation Abbé Pierre, d'être en quelque sorte ces initiateurs, de mettre en commun les ressources et au moins autour de la table les acteurs associatifs, les élus locaux, la Fondation, et puis au nom des personnes qui ont pu s'exprimer en direct.
Merci Pascal Pauli. Je vais revenir vers Michel Blanchard. Vous êtes président du comité régional des bénévoles de la Fondation l'Abbé Pierre. On a parlé de la Fondation un peu sur l'Aquitaine, mais bon, peut-être un petit historique là-dessus, la création de cette agence, qu'est-ce qu'il fait ou...
Alors, il faut peut-être dire que la Fondation Abbé Pierre a un bureau national et ce bureau-là a souhaité développer les agences et développer en particulier une antenne, une plateforme, comme on disait à l'époque, sur l'Aquitaine. Donc là, j'ai été contacté par la DMS, la direction, quoi, qui a demandé que l'on mette en œuvre ce type de produit social. Donc on a travaillé pendant une voire deux années. Tout d'abord pour trouver le lieu d'implantation, c'était pas évident, il nous fallait nous loger à nous aussi, on a réalisé quand même, nous, pour nous loger, c'était pas facile, et donc on a trouvé des locaux appropriés. À partir de là, on a fait un recrutement de personnes sur la Gironde, sur le Pays Basque, sur le Béarn, du côté d'Agen aussi, donc enfin surtout les départements, la Dordogne, etc., et les Landes. Et lorsque l'équipe a été constituée, eh bien, il s'est agi de recruter un directeur, en l'occurrence Pascal Pauli, qui a été recruté à Paris et qui donc a été nommé pour développer cette antenne qui, du coup, cette plateforme a pris le nom d'agence en octobre 2013. Depuis octobre 2013, nous sommes sur les fonts baptismaux. Et cette agence, maintenant, va fonctionner et se développer, c'est-à-dire avoir suffisamment de bénévoles sur chaque département pour pouvoir effectivement répondre aux demandes qui se posent.
Vous êtes implanté sur les 5 départements.
Voilà.
Aussi équilibré au nombre de bénévoles.
Ça l'est pas. Ça l'est pas. Il va falloir effectivement avec Pascal que l'on on a déjà rencontré les maires de tous les départements qui ont été très favorables au fait que une antenne de l'agence s'implante sur leur ville, puisqu'on a vu Périgueux, on a vu Dax, avec, etc. quoi, Agen, enfin toutes les. Et donc là-dessus, il y a aucun problème. Il y a une, on a rencontré des élus tout à fait intéressés par le fait qu'on implante une antenne sur leur lieu de d'élection, quoi.
Et donc, il y a, Michel Blanchard, il y a un profil, un type de bénévole, vous les formez, c'est quand même la question assez complexe. On va y revenir tout à l'heure sur l'accès au droit, hein, sur les questions juridiques, sur le parcours du résidentiel, c'est un chemin de croix, hein, bref.
Oui, alors nous, curieusement, pas curieusement, ça se fait pas comme ça, mais la majorité de nos bénévoles sont des personnes qui arrivent du logement ou qui ont des connaissances très 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 fondées en matière de logement. On a ici sur Bordeaux l'ancien directeur de la DIL, par exemple. Voilà des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent du logement. Et c'est vrai dans tous les départements. On a prioritairement des gens qui ont une grande connaissance du logement. Bon, je pense que dans les prochains recrutements, on va aller chercher des profils un peu plus travailleurs sociaux à la retraite. Mais le profil que recherche l'agence n'est pas... comment dirais-je, objectivé. On souhaite pas rencontrer, mais on rencontre que des gens comme ça qui vont vers la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi? Parce que c'est pas le même type de bénévolat que dans d'autres. Par exemple, si on va au Restaurant du Cœur, on va rencontrer les gens, on travaille avec eux, on les voit en direct. Alors que là, sur la Fondation Abbé Pierre, on est beaucoup plus dans l'instant, hein, sur un profil politique du logement. Comme disait Pascal tout à l'heure, pour interpeller donc des profils de gens qui peuvent parler, qui peuvent interpeller, qui peuvent effectivement avoir une culture suffisamment forte sur le logement pour pouvoir interpeller les élus.
Est-ce que vous avez un système, par exemple, de formation de...
Il y a à chaque fois, merci de cette question, il y a effectivement à chaque fois qu'un bénévole souhaite nous rencontrer et souhaite travailler avec nous, il y a une période, on va dire, probatoire de plusieurs mois, et pendant ces plusieurs mois, il va avoir de la formation à Paris, obligatoire, pour effectivement lui donner quelques bons réflexes par rapport au mal logement.
Et Pascal Paoli, il y a combien de salariés sur l'agence régionale?
Alors, c'est vraiment le principe fondateur de la Fondation Abbé Pierre, c'est que les salariés, nous à l'agence, on est deux, une assistante d'agence régionale et un directeur régional. Le reste des forces vives est composé principalement de ressources bénévoles, comme l'a expliqué Michel. C'est le fruit de l'histoire, c'est la pratique héritée du fondateur, l'abbé lui-même, qui s'était entouré à la fois de bonnes âmes et de gens qui avaient envie de l'accompagner sur ce chemin.
Vous avez parlé du projet d'initiative locale. En quoi ça consiste, ce projet-là?
Les projets d'initiative locale, c'est un petit peu faire avec les habitants et pour eux et par eux. Habiter, ça va pas de soi. Vivre à l'échelle d'un quartier, ça va pas de soi. Par contre, avoir un logement en tant que la satisfaction d'un bien de première nécessité, ça c'est impératif. Donc on accompagne des initiatives locales autour de ce qu'on appelle la promotion des habitants. On donne le petit coup de pouce pour faire démarrer.
Pascal Paoli, Michel Blanchard, bien sûr, Aude Boyeux, et bon, je vais citer tout, bien sûr Estelia et Ossiane, qui est juriste. Je vais vous m'adresser à vous dans un deuxième temps, mais en attendant, je vous propose de faire une pause musicale avec Kerry James, un hommage bien sûr, une chanson aux sans-abri.
La 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 les astrologues disent que vous êtes tous heureux. À la télé, ils disent que vous êtes généreux. C'est pas grave. Encore un rap sur les sans-abri. Que vais-je dire de plus qui n'a pas été dit? Donc je dédie ces rimes aux opprimés, aux déprimés, aux incompris. À chaque famille brisée sans le savoir, les sans-abri sont bien plus proches que l'on croit. Quoi beaucoup s'étonnent, je déconne. Tous les mêmes souffrances, soupirer en silence de leur indifférence qui leur reste comme un poids.
Leur point commun reste leur indifférence. Ainsi la misère des autres les laisse indifférents. Je les ai vus ricaner au nez des sans-abri, se croyant à l'abri, ceux dont Dieu les abrite. Aucune compassion, pas une pièce, même pas un sourire, pas même un soupçon de gentillesse pour ne pas secourir aux déshérités, aux miséreux. Les excuses sont nombreuses pour ceux qui sont désireux de garder pour eux-mêmes ce qu'ils croient avoir acquis. Appartenait à d'autres, appartiendra à d'autres. Ainsi va la vie. Tu verras sur leur trait cette terre supérieure, échec extérieur qui cache pauvreté intérieure. Lâche coupable mais libre, pire se croyant meilleur, ex-magouilleur en costard, futur balayeur.
Ces gens
sont tellement accrochés à leur argent, ils ont toujours l'impression d'être au bout du rouleau.
En fait ils se trompent de but et cachent une flûte sous leurs apparences. En jouent quand il fait beau, se font entendre les jours de chance et vivent de faux semblants et en font toute leur vie. Poussent les trous de conscience de gestes d'artifice, espèce de histoire, ce qu'ils ne font pas tout bas. Verser sous à les tons et se foutent de ce qui se passe en bas de chez eux. Mais quand les blèmes les concernent, ils savent tout se taire. Tout le monde peut avoir une fille toxicomane ou un fils qui fait des bénéfices avec des bésiles. En attendant que ça nous arrive, on se félicite. Et le fils a des bonnes notes, on le plébiscite. Sache que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Même si tu fais semblant, quelqu'un rêvera que tu te vaux. C'est pour ça qu'on est tous tristes. L'égoïsme se transmet de père en fils. Mettre un gosse au monde de l'héroïsme.
Il faut que t'enseignes la charité avant que ce monde féroce ne les imprègne de vanité. Avant que ce monde atroce ne leur apprenne que marcher sur les siens de bonne guerre, ingrédient nécessaire à leur réussite. Triste société d'égoïstes m'attriste mes cœurs. Car au contraire d'être j'ai du cœur de l'amour. Chaque cœur qui bat, issu du bas, je vise le haut, pour ça je me bats. Mon combat a ses limites, car je veux être des gens bien, avoir des principes comme Kima, Kusti ou Zinzin. Mais trop boulot dodo, appétit, ça ne vise pas ce style. Qui leur donne cette arme d'été froid jusqu'à l'effroi. Jusqu'à l'hiver en été, mais en qui été, ces gens ils courent alors que l'État ne fait que reculer leur retraite. Ils ont placé père et mère sans pitié en maison de retraite. La 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 la.
Et toujours sur Odo Radio, chers auditrices, auditeurs, pour discuter des questions liées au logement avec la Fondation Abbé Pierre Aquitaine. On va revenir sur la deuxième partie, mais qui concerne l'accès au droit, l'accompagnement. Il est clair que face à la complexification des dispositifs et des procédures, de nombreux ménages peinent aujourd'hui à faire valoir leurs droits afférents à l'habitat. Et on va revenir sur toutes ces questions-là, la loi Dalo, et etc. Mais tout d'abord, Aude Boyer, vous qui êtes animatrice du pôle logement Emmaüs 33, vous pouvez vous présenter très vite et puis surtout nous dire en quoi consiste ce pôle logement au niveau girondin.
Alors, donc moi j'ai une formation de juriste à la base, je suis urbaniste et en fait dès que la loi Dalo a été mise en application au 1er janvier 2008...
Dalo veut dire quoi?
Dalo, ça veut dire le droit au logement opposable.
Merci.
Voilà, donc c'est une loi du 5 mars 2007 qui a été mise en place à partir du 1er janvier 2008. Et dans le cadre d'Emmaüs 33, on a monté la première cellule d'Allo au départ. Et aujourd'hui, ben, devant le succès malheureux, hein, parce que c'est pas vraiment un succès, mais enfin l'affluence en tout cas des demandes, on a consacré un service beaucoup plus fourni sur l'accès au droit en général, puisque la question du droit au logement, en fait, percute beaucoup d'autres questionnements sur le droit des étrangers, notamment, après tout ce qui est droit de la famille. Et donc, Ossane Nicolo, qui est juriste, a renforcé l'équipe, qui est composée, qui est très diverse en fait, puisqu'on a des formatrices, on a des accompagnements vers et dans le logement aujourd'hui, qui suivent le parcours résidentiel, et on est tous très attentifs à l'accès aux droits des personnes, tant sur le logement que sur l'accès à la santé, au niveau du droit des étrangers. Et Estelle Arès, qui est avocate et qui collabore beaucoup avec nous sur ces questions-là. On pourra parler donc des recours que nous faisons et très récemment des possibilités qui sont faites de faire des référés liberté. Parce que ça, c'est une procédure qui est assez nouvelle, qui a donné des bons résultats jusqu'à il y a pas très longtemps. Mais bon, Estelia vous en parlera tout
mais,
à l'heure.
Mais Estelia, oui, référé liberté très vite, ça veut dire quoi?
Alors, un référé liberté, c'est une procédure d'urgence qui permet à des personnes qui sont démunies de logement de saisir le juge administratif pour que celui-ci enjoigne à la préfecture de leur attribuer un hébergement d'urgence. Et effectivement, c'est sur le fondement de ce que le droit au logement est une liberté fondamentale que le juge administratif a la possibilité de faire cette injonction à la préfecture. Nous avons eu effectivement, grâce au dossier confié par Emmaüs, d'excellents résultats pour des gens qui se trouvaient effectivement dans des situations épouvantables, puisque avec des enfants ou même des bébés qui se retrouvent donc du jour au lendemain sans aucun hébergement, être obligés de dormir dehors par les températures qu'il fait, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est absolument dramatique. Et donc les requêtes faites devant le tribunal administratif avaient jusqu'à présent porté leurs fruits, puisque nous avions obtenu d'excellentes décisions enjoignant la préfecture de les héberger, de leur trouver un hébergement d'urgence dans un délai de 12 heures. Aujourd'hui, on a le sentiment, au vu des dernières décisions obtenues la semaine dernière, que la jurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux semble évoluer dans le mauvais sens, puisque alors que la loi, le code de l'action sociale des familles précise que c'est un droit inconditionnel, c'est-à-dire que, quelle que soit sa situation, au regard des papiers sur le territoire national, on a droit à cet hébergement d'urgence, le tribunal administratif, donc la semaine dernière notamment, a rejeté ces requêtes en référé liberté, estimant que les personnes qui étaient de nationalité étrangère et qui n'avaient pas de titre de droit à résider sur notre sol ne devaient pas être prises en charge par ce dispositif d'hébergement d'urgence, ce qui est contraire au texte de loi. Et donc, pour des cas qui sont absolument dramatiques, puisque les cas dont je vous parle, c'était des familles avec 2-3 enfants et notamment des bébés. Et pour un des cas, un monsieur qui souffrait d'une maladie neurologique extrêmement grave. Donc on est assez inquiet sur l'évolution de cette jurisprudence, et on l'est d'autant plus que, évidemment, cette population n'a pas les moyens de régler des honoraires d'avocat, et donc est généralement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Et dans la décision que j'ai en tête, l'aide juridictionnelle ne leur a même pas été accordée. Comme ce sont des procédures qui sont faites dans l'urgence, l'avocat sollicite ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle provisoire. C'est-à-dire qu'il remet au bureau d'aide juridictionnelle un dossier d'aide juridictionnelle complet, mais comme le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas le temps de délivrer la décision, on demande au juge de l'accorder provisoirement. Généralement, mais c'est la première fois que je vois ça, on obtient systématiquement l'aide juridictionnelle provisoire. Et là, dans les décisions que j'ai évoquées avec vous il y a un instant, l'aide juridictionnelle provisoire a été refusée sans motif. Et c'est ce qui nous fait penser qu'au-delà du fait qu'on ne veut plus appliquer les dispositions du Code de l'action sociale et des familles, on veut également faire peur aux avocats et leur faire comprendre que de toute façon, c'est plus la peine qu'ils s'entêtent à faire des requêtes référées liberté parce que de toute façon, ils ne seront pas réglés de leurs honoraires au titre de l'aide juridictionnelle puisqu'on n'accorde même plus l'aide juridictionnelle provisoire. Donc c'est, j'ai le sentiment que c'est vraiment
un
une décision...
C'est un délai d'entrave, non ? L'exercice des droits, non ?
Juridiquement, on ne peut pas le qualifier de délit d'entrave, mais en tout cas, on voit bien un changement de cap. On voit bien que le juge administratif ne souhaite plus qu'on dépose ce genre de référé liberté. Et pour dissuader qui que ce soit de continuer de faire des dépôts de référé liberté.
Mais se base sur quoi, là ? On est.
Ah ben écoutez, je ne sais pas, parce qu'on a dû aller à la même fac de droit, mais on ne doit pas lire.
Il y a le référé des libertés qui est assez clair, mais bon, après, bon, on ne veut pas l'appliquer. Je comprends pas.
Alors, c'est rejeté, donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas saisir directement la Cour administrative d'appel, il faut directement aller devant le Conseil d'État. Et là, on rencontre un nouveau problème d'accès au droit, c'est que devant le Conseil d'État, il faut avoir un avocat au Conseil d'État qui accepte également de travailler à l'aide juridictionnelle. Et que généralement, comme de par hasard, j'ai envie de dire, le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État n'accorde pas l'aide juridictionnelle au justiciable. Et comme il n'a évidemment pas les moyens de rémunérer un avocat au Conseil d'État, on ne peut pas lutter contre cette jurisprudence.
Mais à l'arrivée, entre guillemets, les victimes ou les ayants droit ou... Que vous défendez, c'est quoi vos résultats au fait ? Vous y arrivez ou...
Ben on y arrivait. Mmh. On arrivait à avoir des décisions qui permettaient à ce que ces familles soient hébergées dans les 12 heures. Alors, des décisions pérennes parfois qui permettaient aux services sociaux et notamment à Emmaüs de construire un parcours résidentiel et puis aussi un parcours à l'accès à la nationalité ou en tout cas à un titre de séjour. Et puis, malheureusement, on a eu d'autres décisions. Excellente sur le fond, puisque attribution d'un logement dans un délai de 12 heures, et puis au bout de 2-3 jours, le 115 les remettait à la rue. Donc on a eu des décisions assez variées, mais là, je suis extrêmement inquiète pour l'avenir. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut poursuivre nos efforts et qu'on ne va pas arrêter de saisir le juge administratif en référé liberté, quitte à continuer de ne pas être payé, mais il faut continuer à faire des recours devant le Conseil d'État, puisqu'il faut que ces décisions qui sont contre allégem, donc contraires à la loi, ne soient plus rendues.
Je m'adresse à Océane et Nicolo. Vous êtes juriste, vous êtes salarié permanent à Emmaüs 33. Vous avez une fonction un peu différente de celle de Maître Stélia Arez, c'est-à-dire vous êtes dans l'accompagnement administratif et juridique au quotidien. Mais quelles sont les questions sur lesquelles les locataires, ou futurs locataires, ou les demandeurs, tout simplement, les questions sur lesquelles les demandeurs vous interpellent ?
Ils viennent nous voir en général parce qu'ils sont sans logement. Donc la question pour eux, c'est de faire valoir leur droit au logement ou leur droit à l'hébergement. J'ai effectivement des questions de locataires, surtout ceux qui font l'objet d'une menace d'expulsion sans proposition de relogement, qui ont fait des demandes de logement social. Il s'agit de plus en plus de personnes qui sont locataires dans le parc social, mais qui ne peuvent plus payer ce loyer parce qu'il y a eu un changement dans la composition familiale, dans les ressources. Mmh. Et ils font des demandes de mutation interne, ça n'aboutit pas. Et puis, on arrive à des impayés de loyer. Il y a des expulsions. Donc, effectivement, ils viennent nous voir pour faire valoir leur droit au logement. Sauf que la commission médiation estime que le bailleur social doit trouver une solution de relogement. Et ça n'avance pas, parce que le bailleur social dit qu'il y a des impayés de loyer, et tant qu'il y aura des impayés de loyer...
Quelle relation vous avez avec les bailleurs ? Pascal Paoli, je le pose à tout le monde. Quelle relation vous avez avec les... Est-ce que vous siégez dans des commissions, notamment la commission d'attribution ? On va y revenir tout à l'heure sur les choix des commissions d'attribution et le reste au niveau des bailleurs.
Alors, on a de très bonnes relations avec certains bailleurs sociaux. avec lesquels d'ailleurs on fait des opérations un peu expérimentales. Je pense à Gironde Habitat, parce que c'est vrai qu'ils jouent vraiment le jeu. Après, de toute façon, ce qu'on peut déplorer, nous, dans le cadre de l'accès au logement, c'est évidemment, on parle de logement... De logements accessibles, et tous les logements sociaux ne sont pas accessibles. Et ça, il faut vraiment le comprendre, puisqu'en fait, simplement 10% de ce qui sort au niveau logement social, c'est ce qu'on appelle le PLAI, et c'est accessible aux personnes à faible revenu. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, le préfet parle de 30%, et bon, on s'en félicite, mais on attend toujours ça. Effectivement, ce que Sahane disait, c'est vraiment le problème de la mutation en interne dans le parc social, où là, il n'y a aucune possibilité d'injonction juridique, parce que les bailleurs sociaux, à ce niveau-là, font un peu ce qu'ils veulent. Et une famille qui anticipe sur le fait qu'elle va plus pouvoir payer le loyer parce que le logement est trop grand, les enfants sont partis, et donc dans vraiment une démarche entre guillemets de bon père de famille va demander à muter, ben elle va se retrouver sans solution, on va pas lui donner une solution, et finalement petit à petit la dette locative va arriver, le bailleur va l'expulser, et elle sera on voudra plus la loger au titre de cette dette. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et tout ça, évidemment, je vous le raconte comme ça, mais derrière, c'est des grandes souffrances et des drames personnels que vivent ces familles.
Vous arrivez un peu à sauver des situations, pour ainsi dire, trouver quelques solutions au prix des bailleurs, à reporter, à échelonner une dette.
Oui, on fait beaucoup de médiation, effectivement, par rapport aux dettes locatives. On fait de la médiation avec les bailleurs sociaux et aussi avec les bailleurs privés, hein, parce que bon, on travaille quand même avec certains bailleurs privés. L'accès au droit et le dépôt de recours d'ALO, c'est quand même... c'est un accélérateur, il faut pas le nier. C'est un accélérateur, puisqu'aujourd'hui... une personne qui est reconnue prioritaire urgente au titre du DALO va être prioritaire dans le relogement auprès des bailleurs sociaux.
Parce que si j'ose dire, la Fondation l'Abbé Pierre, c'est pas n'importe qui, Pascal Paoli. C'est une histoire dont la mémoire, on va dire, de l'accès au droit en matière de logement dans le pays.
Oui, c'est pas n'importe qui, mais il semblerait qu'on n'effraie pas suffisamment. Alors. Nos collègues, nos cousins d'Emmaüs qu'on accompagne dans cette activité d'accès au droit et qui vient bien de raconter par le menu les situations et les drames humains qui se jouent, s'inscrivent dans une toile de fond qui est celle du retard accumulé après toutes ces années. On a quatre grands leviers qu'on n'arrive pas à actionner. On a évidemment celui de la connaissance qui est toujours parcellaire, et même si Océane a du boulot par-dessus la tête tous les jours, on est sûr que on oublie des gens, et on oublie pas faute de vouloir les aider, mais faute de ne pas leur permettre d'accéder aux droits fondamentaux, aux droits sociaux et aux droits du logement. L'avocat présent aujourd'hui nous l'a bien relaté, cette espèce de situation ubuesque et cet engagement dans une, non pas une doctrine, mais une jurisprudence qui fait craindre le pire demain. Et puis on a quand même toujours, et Aude vient de l'expliquer, ce problème de la production. La production qui est insuffisante en volume et qui est certainement insuffisante dans la part du logement social fabriqué, et qui ne répond pas aux besoins toujours plus croissants. Et puis deux autres leviers quand même qui sont le nerf de la guerre, le financement. Financement, l'aide à la pierre, tous les moyens qu'on devrait injecter massivement pour faire en sorte de faire sortir de terre du logement accessible, abordable, aux moyens de la majorité de nos concitoyens les plus pauvres, les plus fragiles. Et enfin la question de la gouvernance. On n'y retrouve plus notre latin, si je puis dire. On perd nos repères parce que tous ceux... métier-là, tout ce monde-là est devenu tellement complexe que pour les gens les plus en difficulté sur le plan économique, mais évidemment sur le plan, j'allais dire, de la culture globale, ça devient un parcours du combattant.
Dans la production, vous l'avez rappelé, Pascal, La production de logements sociaux, on est passé de 20% à 25%, hein, c'est et la loi de Cécile Duflot, hein, la loi Allure, hein, bon, qui couvre plein de, je croyais, près de 200 articles hein, dans cette loi. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan déjà par rapport au respect des 25%? Alors, déjà, les 20% n'étaient pas respectés.
Bon, non, ouais. De toute façon, les 20% n'étaient pas respectés. Les 25%, c'est tout récent, donc la loi, l'obligation dans la loi va se mettre en application. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un marqueur positif qu'une loi grave dans le marbre d'augmenter les ambitions. Maintenant, depuis 30 ans, on est d'accord sur au moins l'indicateur des 500 000 logements à produire par cycle annuel. Et ces 500 000 n'ont jamais été atteints. Et dans l'histoire, pas si ancienne que ça, autour des années 90, dans ces décennies-là, on a fleuré ça. Mais donc, bien sûr que l'ambition de porter à 25% cette obligation faite aux communes soumises à cette loi de solidarité, hein, puisque c'est bien ça.
Je rappelle, pour les communes à partir de 3500 habitants.
Oui. Mmh. Le problème reste entier et il est celui du volume à produire, des moyens affectés à cette production, d'une gouvernance éclairée et totalement transparente et de la connaissance véritablement des situations des hommes et des femmes, parce que derrière on est sur des dimensions humaines et on rappelle encore une fois que ce bien de première nécessité qu'est le logement est le fondement de tout parcours de vie.
Vous avez critiqué la Fondation l'Abbé Pierre le retour sur certaines dispositions de la loi Duflot. Vous pouvez dire un mot là-dessus, Pascal Paoli ?
Ben, nos critiques, elles portent sur ce qu'on a appelé un petit peu ce déshabillage de cette loi Duflot au moment où on était dans le temps de passer à l'acte, c'est-à-dire de traduire dans les actes véritablement les mots. Très rapidement, ce qui ne va pas dans le bon sens et qui a disparu complètement, c'est la fameuse garantie universelle des loyers, c'est-à-dire le moyen pour chaque concitoyen de pouvoir accéder au logement sans avoir besoin, encore une fois, de cette solidarité familiale, encore une fois, de cette masse d'argent avant même d'avoir commencé à accéder au logement. Deuxièmement, cette inflexion du marché, en tous les cas, ce regard un peu plus contraignant autour des tarifs à la relocation, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé l'encadrement des loyers, et ne pas permettre que cette main invisible du marché soit la seule agréée pour contrôler l'évolution, je le rappelle, des prix de l'immobilier, mais des prix des tarifs de la location qui dépassent l'entendement. On est le pays d'Europe où ça grimpe le plus vite depuis des années et des années, on passe notre temps à le dénoncer. Et quand des pays d'Europe adaptent le poste de dépense le plus important à l'affaiblissement des ressources des concitoyens en contrôlant justement ça, on parle de ce principe des miroirs allemands, où il est quand même beaucoup moins difficile d'accéder au logement pour qui que ce soit. En France, on est incapable de le faire et on continue à dire que on va à la marge contrôler ça alors que ça ne se fait pas.
Je voudrais revenir vers vous, Aude, par rapport à des bailleurs. Bon, j'ai vu sur votre site un titre qui interpelle des bailleurs sociaux qui refusent des personnes modestes, notamment Madame R, qui est au RSA, qui cherche un logement, et au titre de la priorité dans l'eau, la loi dont on a parlé tout à l'heure, l'intervention de la préfecture, mais malgré tout, quand c'est arrivé à la commission d'attribution, on lui a dit bon, c'est pas possible, il faut chercher d'autres solutions, peut-être une allocation adulte handicapé, peut-être un petit boulot. Elle est où la loi là-dedans?
Et oui, malheureusement, c'est clair que ce qui devrait se passer, quand une personne est reconnue prioritaire au titre du DALO, un bailleur social est désigné et il doit la loger. Les bailleurs sociaux sont quand même largement financés par l'État. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains bailleurs sociaux font un petit peu le choix de prendre un public le moins précaire possible. Donc pour une proposition qui est faite, ils vont recevoir plusieurs personnes et effectivement ils vont prendre quand même en priorité les personnes qui ont les revenus les plus élevés. J'attire aussi l'attention sur le fait que certaines personnes au moment où on va leur proposer un logement soi-disant, vont le refuser. Donc, nous, c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal à y croire, mais il y a une façon aussi de recevoir la personne et de lui proposer parfois un logement. Comment dire, c'est très anxiogène pour quelqu'un qui a connu la rue pendant des années, ou même les centres d'hébergement. Ben, tout d'un coup, voilà, on lui propose ce qu'il attend depuis toujours. Et là, il y a souvent, de la part des travailleurs sociaux, un accompagnement vraiment très important à faire pour rassurer la personne, qui parfois voulait être à Pessac puis se retrouve à Mérignac, bon, et puis lui dire ben voilà, il y a les bus, il y a les trams, il y a toute une infrastructure. Et ça, c'est un vrai travail d'accompagnement qu'il faut pas négliger, parce qu'on pense que c'est au moment où la personne a la proposition de logement que c'est terminé, et non, en fait il y a encore un accompagnement souvent à faire pour rassurer les personnes. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la production de logements sociaux en PLAI, parce que le logement social, il n'est pas du tout accessible à tout le monde.
Le PLAI, c'est un dispositif qui est sur une direction au bénéfice des plus démunis.
Le PLAI, c'est un système de prêt qui permet aux bailleurs sociaux de sortir des logements à un coût très réduit et donc d'impacter sur le loyer, un loyer bas. Et c'est les seuls logements qui sont accessibles aux personnes précaires. RSA, allocation adulte handicapé, chômeur de longue durée. Et ça, effectivement, là, on est vraiment sur du logement social. Après, on peut aussi parler de logement social avec des loyers de plus de 1 000 euros par mois. Ça s'appelle aussi du logement social et ça rentre aussi dans le calcul de la loi SRU, ce qui, nous scandalise complètement.
Je reviens auprès d'Océane ou Maître Aretz par rapport à la question du droit. D'un côté, tout à l'heure, on a parlé du référé des libertés, c'est-à-dire comment on peut contraindre l'État, c'est-à-dire le préfet à travers le juge administratif. Et là, on est en face, pas du juge administratif, enfin du préfet, mais on est en face de la gestion du bailleur, des commissions d'attribution, qui disent bon, ok, et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que pour le coup, d'un côté, on va attaquer le préfet, mais quand le préfet décide de plus loin et dit bon, vous avez droit au logement, mais et ça marche pas. Mais là, on a vu, c'est une usine à gaz. Là, comment on fait là en termes
Il peut arriver que ce soit effectivement une usine à gaz. Puisque la difficulté en matière de DALO et d'exécution des décisions du tribunal administratif quand elles sont favorables aux demandeurs de logement, c'est de les faire exécuter. Parce que parfois, il arrive que malgré une décision favorable ou de la commission ou du tribunal administratif, donc qui enjoigne une décision qui enjoint de trouver un logement durable à une personne qui a droit, qui est reconnue prioritaire, la préfecture ou les bailleurs sociaux ne s'exécutent pas. Et alors qu'en matière civile, ce sont les huissiers qui sont chargés de forcer les récalcitrants à exécuter les décisions de justice, en matière administrative, c'est le juge administratif lui-même qui est chargé de veiller à la bonne exécution. Donc ce qu'on peut obtenir et ce qu'on obtient régulièrement, ce sont des astreintes contre la préfecture, donc des astreintes qui de quelques cinquantaines ou centaines d'euros par jour de retard ou par mois de retard, mais on a l'impression que finalement la préfecture préfère payer ses astreintes que d'exécuter ses obligations. Et il faut savoir que le paiement de ses astreintes ne va pas dans la poche du justiciable qui l'a obtenu pour faire exécuter une décision, mais va dans un fonds qui sert à construire d'autres logements sociaux. Et donc, on est devant une situation qui fait que les mesures coercitives contre la préfecture ne sont pas suffisantes pour les convaincre d'exécuter ces obligations, parce qu'ils préfèrent souvent payer ces astreintes ou encore payer des dommages d'intérêt quand on fait une demande indemnitaire, puisqu'il y a une possibilité aussi de réclamer des dommages d'intérêt parce que le droit au logement n'est pas respecté. Bon, des indemnités qui de toute façon s'élèvent à des sommes qui ne sont pas suffisantes, c'est de l'ordre de 5 000 euros par demandeur, par justiciable. Évidemment, avec 5 000 euros, on ne se reloge pas dans la durée, hein. Et puis 5000 euros pour la préfecture, c'est pas grand chose, donc ils préfèrent encore payer des dommages à intérêt que de trouver des solutions d'hébergement et de logements pérennes et de construire des logements alors sociaux accessibles, pour le préciser, parce que comme l'a très bien dit Aude Boyer, un logement social avec un loyer de 1 200 euros, il n'a plus rien de social.
Aude Boyer, ou Pascal Paoli, ou d'autres invités, on est devant cette problématique. D'un côté, il y a le droit. D'un côté, il y a l'insuffisance ou l'insolvabilité ou question des revenus. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'avance tient la Fondation Abbé Pierre en la matière et en termes de propositions?
Tout est résumé dans les quatre piliers de ce fameux contrat social. Si vous ne réglez pas la question d'adapter le niveau de l'offre locative au niveau du besoin et notamment dans sa composante des moyens que ces besoins qui sont exprimés peuvent donner dans le logement, vous pourrez produire des textes législatifs, produire du droit, vous serez dans l'incapacité permanente que ce droit soit applicable puisque vous n'avez pas la réponse. Et très concrètement, même quand un bailleur est désigné, même quand une offre de logement est sans possibilité de la refuser, si vous ne disposez pas du bien en face, la politique du logement d'abord s'est heurtée à ça. On a dit, on va se faire sortir les gens des dispositifs d'hébergement sans progresser dans un parcours résidentiel en les amenant directement au logement. On avait prévu, c'était assez intelligent sur plein de formules, qui étaient de dire, on va renforcer l'accompagnement, on va doter des moyens de la médiation, on va repérer des biens, mais on ne dispose pas suffisamment de logements accessibles au bon prix pour les ressources dont disposent les ménages eux-mêmes. Donc, tant qu'on ne traitera pas la question de la production massive, et Aude l'a rappelé, et tout le monde l'a dit ici autour de cette table, tant qu'on ne disposera pas de suffisamment d'offres locatives accessibles dans les bons endroits, là où les marqueurs de la tension sont les plus importants, on ne réglera pas la question par du droit supplémentaire.
Mais ça pose une question de fond, je m'adressais plutôt à Michel Blanchard. Là, on est sur des questions de... Je dirais les pactes républicains. La République, bon, on va dire, on est tous égaux en droit. Elle est où la démocratie sociale là-dedans?
Oui, là, on est effectivement sur ce pacte, hein, mais quand on parle, là, nous, on est dans le dur actuellement. On est effectivement dans l'hiver et on est dans une période où tout le monde accepte que l'on puisse loger pendant 3 mois des publics qui seront logés pendant 3 mois dans les conditions les plus qui vont sur un curseur qui se balade depuis l'hébergement dans un hôtel jusqu'à l'hébergement sur des lits picots dans des gymnases et là-dessus effectivement c'est quand même scandaleux d'imaginer que certaines personnes, certaines populations ont droit pendant 3 mois de leur vie par an à être hébergé. Et le reste du temps, vous revenez à la rue, vous revenez à la case départ. Et ça, tout le monde est au courant, je veux dire. Mais là-dessus, il n'y a pas effectivement de mouvement très important. On a fait la nuit solidaire à Paris, on a fait la nuit solidaire à Biarritz, on va faire avec un collectif, on va réagir à la fin de l'hiver, donc très bientôt, pour sensibiliser les gens, leur dire, attendez, vous tolérez que des populations n'aient droit à être hébergées, à être abritées, que pendant 3 mois par an. Alors, marchez sur la tête, quand même.
On va faire une petite pause avec Renaud, hein, une chanson pour les sans domicile fixe. Je ne vais pas le citer, on va l'écouter plutôt, voilà.
Le loto national n'enrichit que les voisins, sinon c'est Germinal dans le métro parisien. Il y a des drogués pleins de poils qui taxent du fric tout le temps. C'est écrit dans le journal, je le sais, je dors dedans. Je paye un loyer de 10 balles dans une consigne de gare. Je me douche municipal avec des types bizarres. J'ai même chopé la gale, ça se fait plus depuis longtemps. C'est écrit dans le journal, et je le sais, je dors dedans. Je dors à la belle étoile entre étoiles et nations. dans un train qui dévoile Paris, ses constellations. Les lunes de Buzinval, le chien Ménilmontant, la grande ours de Pigalle, je la connais, je dors dedans. Des safranes bleu métal promènent les présidents et les princesses de Galles qui, paraît-il, chient tout le temps. L'Europe des crèves la dalle se fait lentement, mais sûrement, dans le trou de Châtelet-Léal, et je le sais, je dors dedans. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Bon, vous êtes toujours sur Odo Radio 91.3, chers auditrices et auditeurs, avec la Fondation Abbé Pierre Aquitaine, Pascal Paoli, Michel Blanchard. Je commence par les mecs, c'est vraiment pas bien. Hein. Bon, Aude Boyer, qui s'occupe du pôle logement Emmaüs 33, Estella Retz, qui est avocate, qui assiste la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs 33, les deux, hein. Et Océane Nicolo, qui est juriste permanente à MH33. On va s'acheminer à la conclusion, à la fin de cette émission. Pascal Paoli, vous allez revenir peut-être au HOD aussi, sur l'agenda des choses que vous avez prévues prochainement. À vous, l'un ou l'autre, au choix.
Donc, on peut déjà vous donner notre adresse. Donc, l'accès au droit avec la Fondation Abbé Pierre se trouve au niveau de l'espace Solidarité Habitat en construction, hein, parce que on est juste en train de le mettre en place. C'est 11 avenue Jean Jaurès, à ce nom, donc c'est simplissime puisque c'est l'arrêt Jaurès par le tram. On va mettre en place des ateliers logements deux fois par mois, donc pour ça, vous retrouverez sûrement les coordonnées sur votre site, puisque c'est la fondation qui va gérer tous ces rendez-vous. Et au niveau de l'accès au droit, les rendez-vous sont pris directement au siège d'Emmaüs Gironde, au 246 cours de la Somme.
On peut aussi retrouver tous les contacts, ces coordonnées sur le site de la radio, www.odoradio.net. Il y aura tout. Vous mettez juste Odo Radio, vous aurez, et là aussi la Fondation de l'Abbé Pierre, il suffit de mettre juste le nom, vous aurez tous les renseignements possibles concernant les contacts, si vous avez besoin d'être renseigné, informé, accompagné, etc. Pascal Paoli.
Oui, deux temps forts à venir sur les mois prochains. Comme Michel l'a rappelé, eh bien, on va à nouveau sensibiliser, interpeller l'État et tous les pouvoirs publics au moment de la fin de cette trêve hivernale. Je le rappelle, on la doit quand même à l'abbé Pierre, cette trêve hivernale. Elle prend fin donc le 31 mars de cette année, comme tous les ans malheureusement, et elle ouvre une période qui va devenir beaucoup plus dure pour les gens qui sont reçus à l'espace Solidarité Habitat d'Emmaüs et de la Fondation. Ce sont ceux qui vont être menacés d'expulsion et qui malheureusement ne sont plus protégés par cette trêve. Donc on vous donne rendez-vous le 31 mars, place Péberlan, avec ce collectif des associations de l'urgence sociale et de l'action caritative. Et puis un autre rendez-vous qui est maintenant inscrit dans les tablettes, je l'espère, de chacun, qui est la présentation de notre éclairage régional sur l'état du mal-logement en Aquitaine, qui sera cette année à la Maison de la Promotion Sociale à Artigues, le mercredi 15 avril 2015. C'est une journée complète qui fera la part belle à des données, de l'observation, du décryptage, des choses extrêmement pédagogiques et éducatives pour que on parte avec une vision un peu plus complète de l'observation locale. Et puis l'après-midi sera consacré, eh bien, aux moyens que la Fondation en Aquitaine déploie pour accompagner les structures, les associations, venir en aide aux personnes. C'est un petit peu le déroulé du plan d'action pour lutter et combattre chaque jour un peu plus et de manière intensifiée ce phénomène grandissant du mal-logement.
Eh bien, cette émission sur les questions de logement coproduite par Odo Radio et la Fondation L'Abbé Pierre, vous pouvez adresser aussi des questions en matière de logement à la Fondation sur leur adresse, en les appelant, en envoyant des messages. Mais vous pouvez aussi contacter Odo Radio sur son site www.odoradio.net. Vous aurez toute l'information là-dessus en matière de questions que vous posez sur le logement. Je vous dis à bientôt. Nous vous retrouvons tous les derniers jeudis du mois avec la Fondation L'Abbé Pierre jusqu'à décembre 2015. Merci à toutes et à tous. Vous êtes sur Odo Radio 91.3.
Je dormais entre deux cartons, le cœur sur le bitume, une guitare à la main. quand tu nous vois, m'a dit mon garçon. Au royaume de l'indifférence, on est à l'abri de rien. Alors choisis ton camp.
Fondation Abbé Pierre, ne lâchons rien.
À errer, enchaîner au funeste destin d'un système où demain rime avec chrysanthème. N'y a-t-il pas d'autre voie à emprunter, d'autres lois que nous puissions imaginer?